la deuxième activité, le deuxième karma d'intelligence, c'est l'épanouissement. Gué. Ouverture, émancipation, épanouissement, enrichissement, prospérité. Tu vois, ce mouvement d'ouverture des bras, on prend de l'ampleur. Tu arrives à avoir un terrain de pacification, de dialogue, de communication. Et ben, on va pouvoir s'ouvrir, quitte à balancer des reproches, mais dans une certaine sobriété, dans une certaine sérénité, grâce à l'activité de pacification. Et ensuite, on va pouvoir, donc, finalement, déborder du sujet, et puis les gens vont parler de leur cas personnel. Voilà, il y a un épanouissement. Et finalement, cet épanouissement, on gagne en confiance en l'autre. Donc, il y a des espaces d'ouverture qui s'ouvrent, voilà, etc. Alors, c'est une façon de l'expliquer, cet épanouissement. Et cet épanouissement, justement, montre que quelqu'un qui était parti sur la colère, et on est très sclérosé dans notre colère, ça donne des œillères, etc., ce qui donne aussi toute la force. On ne veut plus rien entendre, on fonce dans le mec, et voilà. Et on peut être très très fort, hein, d'accord. Et j'ai connu, hein, dans ma jeunesse, les plus coriaces, c'était les petits, hein, d'accord, hein, etc. C'était les batailles de banlieue, c'était les plus petits, c'est les plus vaches. Hein. C'est un peu comme les chiens, hein, les fox terriers, je sais pas quoi, enfin, tu vois, etc. Hein. Un grand gaillard comme toi, il fait pas peur. Je n'ai jamais peur d'un grand. Donc voilà. Et là, ça, l'épanouissement, ça, on s'épanouit à nous-mêmes. C'est, on n'est plus sclérosé. Tu vois, cet élémentaire saisi, hein, ça donne une cristallisation, une minéralisation. Hein. L'élémentaire s'associe au règne minéral, mais sclérosé. Alors, soit dans ce que j'appelle la politique de la terre brûlée, ou soit dans la politique de geler les rapports, les relations, hein, geler les relations. Ça se fait en politique, ça se fait dans l'émotionnel. Ici, il y a un épanouissement. On fait fondre la glace, ou alors la terre brûlée commence à être fertile, refertilisée, etc. Tu vois, fraîche, aérée, etc. Tu vois, ça va ? Donc cet épanouissement. Cet épanouissement est associé à, justement, à la sagesse, l'intelligence, d'équanimité. Déjà, dans la pacification, il y a une certaine équanimité. C'est-à-dire une respectivité de la vue de l'autre et de soi-même. Une respectivité, donc, respect, ça veut dire de pair. Moi et l'autre, l'autre et moi. D'accord ? Respectivement. Avec une idée justement de renvoyer de façon équitable. Et considérer qu'on est à la même enseigne, dans le même panier, le samsara éventuellement, tu vois, etc. Considérer l'autre qu'il est lui-même en train de souffrir, d'accord, et son moteur initial étant d'aspirer au bonheur, il cherche par tous les moyens de trouver le bonheur. Alors, certaines fois, c'est une conception erronée du bonheur, c'est une satisfaction immédiate. Tu as une frustration, tu as déclaré que cette personne est la cause de ta frustration, et tu as justifié une agression jusqu'à même le cogner, etc. D'accord ? Et bien, c'est une recherche de satisfaction immédiate. D'accord ? Qui est logique dans le sens où la personne aspire au bonheur, mais sa conception du bonheur, c'est juste une satisfaction immédiate. C'est-à-dire, se rend satisfait de voir l'autre souffrir de ton coup de poing, par exemple, etc. Et tu te sens moins frustré. D'accord ? Mais cette satisfaction immédiate n'a pas l'efficacité de combler entièrement. C'est palliatif. C'est une vague compensation qui dure un instant. D'accord ? Et des fois même, quand on est porté par la haine, hein, on cogne, on cogne, on cogne, on ne trouve aucune satisfaction. Et c'est là où la haine commence à être dangereuse. Parce que tu vas même jusqu'à vouloir exterminer l'objet de ta haine, alors que c'est qu'un fantôme virtuel à l'esprit. D'accord ? Voilà. Et donc, dans l'équanimité aussi, il faut savoir faire le bon procès. Le procès, souvent, pour les gens, c'est le bien et le mal. Hein? D'accord? Mais le bien et le mal, à une époque des Far West, le méchant, c'est les Indiens et le bon, machin. Après, on a inversé, puis après, on ne sait plus qui est bien, le mal. On sait bien. Hein? La frontière entre quelqu'un qui fait le bien et quelqu'un qui fait le mal, on ne sait pas trop. D'accord? Donc, c'est très difficile d'être sur un arbitrage purement moral. Parce que la moralité, elle reste sur des sentiments. Un jugement d'arbitrage moral, sens moralisateur, peut-être que le mot moral est beau, hein, la morale, hein, mais ici, je l'entends comme quelque chose de très binaire, manichéen. D'accord ? Et en général, ça se base sur le sentiment, une sentimentalité, un affect. D'accord ? Ça part, un affect, ça part sur une frustration, un manque, et ça va impulser, hein, une décision. D'accord ? Le vrai arbitrage, et ça c'est l'arbitrage bouddhique, hein, c'est pas tant le bien et le mal, c'est vertueux ou non vertueux. C'est très différent. Vertueux, c'est-à-dire qui a la puissance de, et non vertueux qui n'a pas la puissance de. On joue sur cet arbitrage. Et sur la base d'un moteur inhérent à tous les êtres, c'est ça qui nous fait l'équanimité. On est tous dans la même galère, si je veux dire. On aspire au bonheur, mais par manque d'intelligence, on n'y arrive pas. C'est-à-dire, on n'a pas l'efficacité. L'efficacité, c'est ça l'arbitrage. Est-ce que c'est efficace ou pas efficace à l'obtention d'un bonheur qui comble, d'accord, là, véritable bonheur, si j'ose dire, qui n'est pas justement une circonstance donnée, hein, une émotion donnée, voilà. On dit félicité, etc. Et dans l'économie, il s'agit de savoir de quel arbitrage il s'agit. Parce qu'on peut décréter, il est bon, il est gentil, parce que, hop, il s'habille de cette manière, il mange de telle manière, hein, il mange ça, mais il ne mange pas ça, hein, etc. On peut faire des idéologies alimentaires, hein, les végétaristes, les véganes, hein, c'est proche même des extrémistes. Hein, ils ont été capables de menacer de mort quelqu'un qui mangeait de la viande, hein, récemment en France. Hein. Donc attention, hein. Et je dis souvent, enfin, c'est bien connu, Hitler était végétarien, par exemple. Hein. D'accord. Mais il n'était pas végétariste, lui, par contre. Il était antisémite, c'est clair, mais pas végétariste. Il était végétarien, tout simplement. Mais, voilà, le bon confort moral s'appuie sur la sentimentalité. Et c'est la base du fondamentalisme. D'accord. Je crois que c'est Spinoza aussi qui décrétait que quelqu'un qui, soi-disant, a plusieurs femmes, ça le choquait. Et au début, il fondait l'éthique sur la base de cela. Et il s'est aperçu, mais c'est parce que je suis choqué que j'estime que ce n'est pas éthique. D'accord ? Et ça, si on comprend bien ça, on se libère de beaucoup de choses. De jugement de l'autre, de jugement de soi même, etc. Et ce n'est pas de cet arbitrage qu'il s'agit de faire, mais vertueux ou non vertueux. Est-ce que c'est propice, hein, puissant, c'est un pouvoir sur plus de lucidité nous amenant à l'éveil ou pas ? Et c'est ça le sens de Gendun, Sangha, aspirant à la vertu. C'est-à-dire des gens qui savent, plus ou moins par expérience, et là on peut se tromper toujours, qu'est-ce qui est propice à l'éveil. C'est pas un moralisateur. D'accord ? Être un moralisateur, dans ce sens, c'est bien facile, hein, mais c'est dangereux. Enfin, facile, c'est par paresse d'esprit. On peut, oui, c'est pas bien de... Non, on ne sait pas. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Elle a plus de lucidité pour soi-même et a plus de lucidité pour l'autre, a plus d'épanouissement pour moi-même et plus d'épanouissement pour l'autre. Donc le vrai procès qu'il faut avoir, c'est un procès d'efficacité et non pas un procès moral. Et c'est ça l'idée d'équanimité. Bien sûr, égalité de l'un et de l'autre dans un respect mutuel, ne jamais exagérer l'idée de l'autre à son détriment, genre l'altruisme. Hein, c'est-à-dire l'idée de l'autre à son détriment, d'accord ? Ou alors inversement, hein, l'idée de moi au détriment de l'autre, qu'on peut appeler l'égoïsme, d'accord ? L'idée, c'est de bien comprendre qu'on est tous dans un référentiel qu'on appelle l'égocentrisme, c'est-à-dire une perception subjective, référentielle, mais c'est Le référentiel de soi-même, c'est l'égocentrisme. Et le référentiel de l'autre, ben, c'est l'alter-égocentrisme. Et les mettre en respectivité, équanime, et de savoir quel est ce qui va être vertueux à plus d'épanouissement. Ou pas. Là, c'est très difficile. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir cette intelligence de l'équanimité pour rentrer dans une activité d'enrichissement, d'épanouissement, voilà, où on va apprendre un peu plus de sur nous-mêmes, voilà, nos mécanismes, hein, nos subconscients qui se disent « je suis bon parce que je paye mes impôts hein, » ou « je suis bon parce que je travaille, j'ai un salaire, les autres c'est feignant ». Tu vois, c'est des discriminations très moralisateurs. Hein, à l'emporte-pièce, etc. Et, ouais, discriminant, quoi, hein. C'est des procédures moralisantes. D'accord ? Et la moralité, ben, il y a des moralités politiques, religieuses, etc. De tous bords. Il y a des moralités aussi artistiques, etc. Et qui n'a rien à voir avec l'éthique qui s'appuie sur l'efficacité, hein, la vertu. Hein. Est-ce que c'est plus épanouissant pour son être ? Est-ce que je peux me coucher, hein, sur mes deux oreilles, méditer sur mes deux fesses ? Voilà. Vertueux, non vertueux. Et c'est le sens de Gendun. Un bon ami spirituel, c'est quelqu'un qui va te dire, regarde, essaye voir si c'est pas plus vertueux ça de faire comme ça. C'est-à-dire plus efficace à te sentir épanoui à toi-même, émancipé. Parce qu'on peut être dans un moralisme étriqué, et les gens ne sont pas très épanouis. On les reconnaît, hein, d'accord, etc. Hein, ils sont, voilà, etc. Et des fois, ça se trahit très rapidement. Ils se trahissent très rapidement, hein. Un petit truc, tu le sens, parce que derrière, il y a des frustrations, des dénis, des reniements d'eux-mêmes. Ils vont parler de renoncement, il faut se priver de telle chose, mais ils se renient, d'accord ? Ils appellent ça des renoncements, après ils vont appeler ça de l'héroïsme, pour se priver de quelque chose, de l'héroïsme, la performance, mais derrière, ils ne sont pas eux-mêmes, quoi, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lâcher dans la débauche, c'est pas ça, mais toujours être en équanimité de soi-même, de l'autre. L'autre, c'est la société aussi. Hein. Rester dans certaines conventions, des choses, etc. etc. Ça va ? Donc la sagesse, la karma, c'est pas une sagesse. Hein. C'est une activité qui va permettre un épanouissement de l'un et de l'autre. C'est-à-dire pour nous-mêmes, voilà. Etc. Ensuite, le contrôle, Wang Du. Qui est associé à Amitabha. Donc, Amitabha, c'est l'agrégat perception, c'est-à-dire l'agrégat jugement, perception dans le sens entendement, comment j'entends la chose, comment j'entends la forme, comment j'entends l'émotion, comment j'entends tous les phénomènes, tous les événements mentaux, tout ce qui est conçu à l'esprit, comment je l'entends. L'entendement. Alors, c'est traduit souvent par perception. J'ai toujours un peu de mal avec ce mot. L'entendement, voilà, comment tu juges les choses. Et là, il faut être clair avec, déjà, le type de procès. Avec l'équanimité. Si tu as un fondement subconscient d'un procès moralisateur, et ben, ton agrégat perception-entendement va prendre un code pénal procédurier, d'accord ? Et là, tu vas t'octroyer non pas seulement d'être juge, mais de donner un verdict, une sentence, récompense, punition. Vous voyez cette dualité que Jean-Paul Sartre disait aussi de la société ou tout le mouvement. J'estime que je t'aime, tu es gentil avec moi, et on fait un système de récompense. Je maintiens mon objet de désir pour qu'il continue à ne pas me décevoir. D'accord ? Je nourris, j'alimente, etc. Des bons rapports. D'accord ? Bon, voilà, etc. Jusqu'au jour où les bons rapports, cette personne te dit un jour t'es con. Ah, ben t'es plus mon ami. Je croyais justement que parce que j'étais ton ami, je pouvais te dire t'es con. Ah non, ça ne rentre pas dans mon code pénal, ça. Pour moi, un ami, il se tait, quoi. Il ne me dira jamais je suis con. Il me laisse être heureux, tu vois, c'est ça. Et bien, le code pénal, il s'établit avec Ratna Sambhava. enfin la famille Ratna. On connaît ce joyau. Quand on se connaît, on se sait libre par la sagesse semblable au miroir. On s'appartient à soi-même, on est libre. On est dans la spontanéité, libre, pas libre de tout faire. Libre d'avoir accès à cette intelligence qu'on appelle semblable au miroir. Il y a. D'accord ? Voilà. Constat. Ensuite, avec Ratna, la famille Ratna, on a un joyau qui a émergé. On a découvert qu'on a un immense joyau, Ratna Samba. Il a émergé. C'est comme découvrir, disait Niguma, qu'on se croyait pauvre et on a un trésor dans le jardin. Ratna Samba, l'émergence d'un joyau. On a un super cadeau, l'équanimité. C'est-à-dire, on est libre et ensuite on a un super cadeau, on a le droit à un arbitrage. Et on a choisi le bon arbitrage, efficace, pas efficace, pour soi-même, pour l'autre, éventuellement les deux, c'est bien. Si c'est mieux pour l'autre, après à choisir, des fois on préfère que ce soit mieux pour nous, puis on verra plus tard pour l'autre, des fois on change, voilà, mais pas d'excès, extrémiste, quoi, toujours pour l'autre, on sait pas. Il faut garder cet arbitrage, cette élasticité aussi dans l'équanimité. Et donc maintenant, on n'a pas de code pénal, on a un arbitrage basé sur la liberté, c'est la spontanéité, de savoir constater et pas saisir, il y a simplement, il y a quelqu'un qui a tué. Tu vois, c'est très différent. Tu juges l'acte de tuer. D'accord ? Si tu dis, il y a un tueur, dans la salle, c'est foutu. Le mec, il est déjà con. Le verdict est déjà donné. Donc, faites venir le tueur. Non, faites venir l'accusé. D'accord ? On prétend que vous avez tué. Donc, on va juger cet acte. Maintenant, on va juger cet acte en fonction de comment le pense cette personne accusée de son acte. Soit il se dit coupable, pas coupable, il y a d'autres choses. Voilà. Et bien, grâce à cet arbitrage efficace, pas efficace, on a un autre. On n'a pas de code pénal, d'accord ? On constate, il m'a dit, d'accord ? Il a sorti des mots comme « je suis con », d'accord ? Eh bien, on est libre, sagesse semblable au miroir, on est paisible, apaisant éventuellement, c'est-à-dire on est serein, mais on peut être vexé, on peut être blessé, en toute sérénité, tu vois ? Sobriété plutôt, d'accord ? Équanimité. L'arbitrage, c'est est-ce que c'est efficace de lui rendre la même chose ? Est-ce que c'est efficace d'en rester à être blessé ? Ou est-ce que c'est efficace de faire comme si que j'étais indifférent ? Parce que c'est un vrai mensonge, l'indifférence. Ben, je ne suis pas touché, non, c'est un mensonge. D'accord ? C'est un déni. Tu vois ? Et maintenant, on a cet arbitrage avec Amitabha, c'est-à-dire l'intelligence du discernement. Et le discernement, c'est à nouveau une procédure avec ce qui nous arrive. Par l'autre et ce qui nous arrive par nous-mêmes, d'accord ? Donc on est toujours dans un jugement là. Là on est vraiment au jugement, l'entendement, comment j'entends maintenant ? D'accord ? Et c'est là, grâce à cet arbitrage d'efficacité, vertueux, non vertueux, à gagner plus de lucidité, comme dans la justice française, la justice de certains pays, où on n'est pas des justices rétributives, mais rédemptrices, si on cherche à amener une rédemption chez l'accusé, enfin le coupable, s'il est coupable, à trouver que les victimes se sentent soulagées, enfin indemnisées, je ne sais pas ce qu'on en dit, qu'ils arrivent à pardonner, et ainsi de suite. C'est ça la justice dans nos démocraties, grosso modo. En tout cas, celle de France. Pour moi, un exemple. Alors, il y a les bavures, bien sûr, etc. Et donc ce procès est très différent. Comment tu l'entends, mais tu ne te prétends pas t'octroyer un verdict. Pourquoi ? Parce que dans toutes les communautés, tu fais confiance à la nature de l'autre. Il sera à même de juger son acte, de se juger de son acte. D'accord ? Et c'est ça qu'on attend aussi, c'est de demander qu'est-ce que tu penses de ton acte. Et on peut éventuellement juger de ce qu'il pense de son acte. Mais pas juger que c'est un tueur, c'est foutu. Ou c'est pas un tueur, ça suffira pas. D'accord ? Si on juge pas l'acte en tant que tel, il a tué, donc c'est un méchant. Et c'est là où il y a aussi, grâce à cet arbitrage d'équanimité, cet arbitrage de vertueux ou pas vertueux, hein, si on s'en tient à juger son acte sainteur, hein, la personne, tu ne le renvoies pas. Tu le renvoies à être un tueur dans sa prison, si tu veux. Donc tu ne lui donnes pas une issue, une possibilité d'assumer de se juger lui-même avec cet acte. Comment il pense son acte? Alors le jour du procès, il peut dire il l'a mérité, machin, il m'a mis en colère, je juge que c'était juste. D'accord? Hein? Mais si tu lui dis, tu juges ça, eh bien, vous aurez 20 ans de prison parce que vous estimez que c'est juste. D'accord? Tu vois la différence? Eh bien, la personne, il sait pourquoi il a 20 ans de prison. Non pas parce que c'est lui et qu'il aurait tué, c'est parce qu'il a estimé que c'était juste. D'accord? C'est ça qui fait toute la gamme de sentence, de verdict. Et c'est très important d'amener l'autre à prendre ses responsabilités. Et les victimes, parce qu'il y en a, bien sûr, c'est un assassinat, hein. Je donne vraiment les comptes dans le cadre des procès, parce que l'activité de la conscience mentale dans l'illusion, hein, c'est procédurier. Constamment en procès, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? C'est toi, c'est moi, c'est la vie, voilà. On est en procès constant. D'accord? Il faut arriver aussi à un jugement qui va permettre de donner les éléments pour que les victimes puissent un jour pardonner. D'accord? Mais pas oublier, comme on dit. Pardonner, ça veut dire comprendre. Pardonner, c'est une activité qui, dans pardonner, il faut entendre donner la part de responsabilité à chacun. Faire confiance que l'autre, à un moment donné, il assumera la responsabilité d'avoir pensé que tuer était juste. Attention. Hein? Bien sûr, tuer, c'est pas pardonnable. Et l'accusé, un jour, ne se pardonne pas d'avoir tué. Il aura un regret, une culpabilité, etc. Mais, surtout, il se pardonnera d'avoir pensé que c'était juste. Et donc, il va désengrammer, déprogrammer la satisfaction de cette justesse. Je pensais que c'était juste, donc je justifiais de tuer. D'accord? Et donc, s'il arrive à déprogrammer ça, que c'est parce que ça te semble injuste que tu dois tuer. Là, tu recherches une satisfaction. Et tu coupes pour toi, ce qui est logique. Tu coupes la logique qui t'amène à justifier de tuer. D'accord? Et c'est là où tu te pardonnes. Te pardonne à toi-même, d'accord? Parce que je ne recommencerai plus à trouver que si c'est juste, je le fais. Et donc finalement, tu n'arriveras plus à tuer dans une vie future, etc., ou même dans cette vie-là. Et là, tu ne seras plus un récidiviste. C'est ça le problème, le travail de rédemption, hein, des prisons. Hein. Enfin, je parle de ce monde parce que voilà. Donc le contrôle. Le contrôle, c'est justement pas sous prétexte, hein, quelqu'un a tué, tu l'amènes à la vindique, au lâchage, etc. Tu contrôles, tu fais des choses comme ça. Tu rassembles des informations, tu rassembles des dossiers. Hein, et c'est le sens de Wang Du, rassembler. Du, c'est rassembler pour faire une synthèse. Et Wang va donner puissance. Ou la puissance de rassembler qui va donner une convergence de puissance. Tu vois, hein, ça va. Une puissance dans le sens vertueux. C'est-à-dire que tu vas avoir une force d'application de cette vertu. Et le verdict peut être cruel, mais ça sera bien exprimé. Si je reprends l'exemple du procès, hein, si ça te convient, le juge lui dit, parce que vous avez dit que c'était juste de tuer, vous aurez 20 ans. D'accord? Et un autre truc, j'étais dans l'impulsion, c'est pas prémédité, etc. Je ne savais pas ce que je faisais, j'ai tué. Bon, crime passionnel, 5 ans. Tu vois ce que j'ai, hein? Une vraie justice, hein, avec les autres intelligences, hein, qu'on a vues, hein, la vraie justice, c'est, bien sûr, il ne faut pas être bisounours, d'accord, hein? Il faut amener l'autre à l'aider à sa rédemption. Donc quelqu'un qui commence à dire, je ne sais plus ce que je faisais, etc., j'avoue coupable, etc., la rédemption va être plus facile. Ça veut dire qu'il il va sortir léger. Non, il aura un poids sur la conscience, heureusement. Hein, le souvenir, on n'oublie pas. Même quand on se pardonne à soi-même, hein, on sait les erreurs qu'on a faites, mais on n'oublie pas. Mais on est moins torturé, on n'est même pas torturé. On n'oublie pas, voilà. Hein, on a un rappel à l'ordre. Hein. Et pour les vies futures, bien sûr, il y a un peu de souvenir, heureusement. Hein. C'est pas que c'est gommé. Les répercussions ne sont pas gommées, hein, d'accord, les répercussions dites karmiques, mais la mémoire, elle oublie. Hein, sinon, on exploserait, je crois, si on devait se souvenir de tout, etc. Donc l'activité de contrôle, c'est Wangdu. Alors le sens du Wangdu, hein, dans le Vajrayana, c'est rassembler les Dakini. Qu'est-ce qu'on entend par Dakini? Les cinq Dakini, des cinq éléments. Disons, on ramène toutes les capacités de forme, les cinq éléments, toute manifestation, etc., attaque, et on en a donc un contrôle, c'est-à-dire on l'amène à l'objectif de lucidité, ou rendre lucide l'autre. D'accord ? Comme un juge voudrait rendre lucide le criminel, l'assassin, éventuellement. Donc le contrôle, c'est un karma, l'intelligence, l'activité de l'intelligence due au discernement. Donc, à travers Amitabha, on a l'agrégat entendement, et on a Gokarmo, qui est l'élément feu, qui amène clarification, hein, le feu, mais aussi chaleureux. Si tu donnes 20 ans de prison à l'autre, tu vas le faire avec chaleur. Tu dis, écoutez, j'en suis venu à avoir ce verdict. Je suis désolé, voilà, etc. Tu vois, ça peut sembler bizarre, mais de l'empathie, la chaleur, voilà, et presque du réconfort. On vous propose 20 ans de prison pour cette rédemption. Puis après, tu as des visites, des réductions de peine, voilà, etc. C'est la chaleur, toujours. D'accord ? Si on voit qu'il y a eu un travail de rédemption, de fait, etc., qui ne peut plus être récidiviste, il y a des réductions de peine. On ne juge pas l'acte. Alors bien sûr, après les réductions de peine, les victimes peuvent se dire, non, avoir tué mon père, c'est 20 ans. Et même, c'est la mort. Cette victime ne fera jamais son travail de pardon. C'est-à-dire, il sera hanté par ça. Et pourrait lui-même inverser le karma, c'est-à-dire justifier qu'il peut mourir. Parce que ce n'est pas de tuer qui est grave, c'est de l'avoir justifié. D'accord ? Et la personne, une victime, peut devenir après, hein, le fait, hein, d'avoir justifié que ça mérite la mort. Ça va ? Et donc, dans ce cas-là, il ne fera pas de travail de victimation, etc. Et il finira peut-être, justement, dans une vie future, peut-être à justifier, à avoir ce karma de justifier, hein, un acte. On peut dire à son apogée de tuer, quoi, enfin l'acte le plus grave, un des actes graves. Ça va, tu t'ennuies pas?
Non, c'est très bien.
On a fait le karma de l'épanouissement, l'enrichissement, et le karma du contrôle.